BW. Droits et libertés.
Victoire Ingabire Umuhoza est la grande figure de l'opposition à Paul Kagame au Rwanda. Depuis des années, elle dénonce les dérives autoritaires du président et réclame la démocratisation de la vie publique et des institutions de son pays. Ses critiques lui ont valu bien des démêlés avec la justice. Mais Victoire Ingabire ne baisse pas les bras et espère l'établissement d'une commission vérité, justice et réconciliation pour le Rwanda sur le modèle de l'Afrique du Sud post-apartheid. Nous parlons de tout cela avec elle, puisqu'elle est notre invitée cette semaine. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Victoire Ingabire Umuhoza, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes donc l'une des principales figures de l'opposition au président Paul Kagame au Rwanda. Vous présidez le parti d'Alpha Umurinzi. Vous avez déjà une longue carrière politique qui a été parsemée d'embûches. Vous avez notamment été condamné en 2010, si je ne m'abuse, à 15 ans de prison, à l'époque pour conspiration contre les autorités, par le terrorisme et la guerre, minimisation du génocide de 94 et propagation de rumeurs dans l'intention d'inciter le public à la violence. Donc voilà, ça c'était le jugement officiel. Vous avez été libéré 8 ans plus tard, mais donc vous avez quand même passé 8 ans en prison, dont 6, je crois, à l'isolement. Ensuite, vous avez souvent été perquisitionné, enfin votre domicile ou celui de vos proches. Vous avez été souvent auditionné aussi. Comment est-ce que vous continuez malgré tout vos activités politiques? Comment faites-vous?
Oui, merci. Je corrige un peu. J'ai passé 6 ans dans l'isolement. Et puis, il faut savoir que j'ai été innocentée par tous ces crimes, par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Mon combat, c'est pour démocratiser notre pays, pour qu'on puisse mettre en place des institutions qui sécurisent et rassurent chaque souche de notre société.
Le 22 août dernier, vous avez publié une tribune qu'on retrouve sur le site levif.be, un site belge, dans lequel vous appelez une réforme des méthodes de gouvernance au Rwanda. Vous y retracez l'histoire du pays depuis l'indépendance et donc dénoncez aussi les dérives autoritaires du FPR qui est au pouvoir depuis 1994 maintenant. Expliquez-nous un petit peu ce que vous appelez de vos voeux quand vous préconisez par exemple l'établissement d'assises nationales, d'un dialogue.
C'est que je vois que bien que les Rwandais, on a besoin de s'asseoir ensemble comme les enfants du pays, pour trouver ensemble une solution qui convient à notre situation, à comment on peut partager le pouvoir entre les Rwandais. Aujourd'hui, nous avons le système des FPR en mise en place, ce qu'ils ont appelé la démocratie consensuelle. Mais cette démocratie consensuelle, on se rend compte en fait qu'au fur du temps, s'est transformée en un parti d'État, où il n'y a que le parti FPR qui est au pouvoir, qui contrôle tout. Moi, je vous dis, il faut que nous essayions ensemble que chaque souche de la société se sente sécurisée et qui participe dans les institutions et les décisions du pays pour que chacun puisse être sûr que s'il y a un danger pour sa sécurité ou ses droits fondamentaux sont violés, au moins qu'il a quand même les marges de manœuvre pour pouvoir se protéger. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de la réconciliation, il y a un certain pas qui a été fait, mais il y a encore un long chemin à faire. Par exemple, en 1994, avant le génocide commis contre les Tutsis, au moment du génocide commis contre les Tutsis, et après le génocide, il y a eu d'autres crimes, des crimes commis de l'humanité commis contre le peuple Hutu. Ce sont des crimes qui ont été documentés par l'ONU. Alors, ces crimes, au Rwanda, les gens ne peuvent pas en parler. On ne peut pas parler de la réconciliation si on n'est pas prêt à soigner toutes les blessures. Donc, je propose, par exemple, qu'on puisse avoir une commission réconciliation, justice et vérité, comme celle de l'Afrique du Sud. Parce que là, ça a été une commission, la justice, ce n'était pas pour punir, c'était plutôt pour réconcilier.
Alors, cependant, il y a aussi encore des groupes armés, par exemple, qui sont actifs en territoire congolais. Je pensais au FDLR. Comment faire pour entamer un dialogue avec eux, alors qu'ils sont recherchés par les autorités?
Oui, c'est vrai, il y a des groupes armés, il y a certains éléments du FDLR qui sont recherchés par les autorités, mais je veux souligner une chose. au fur et à mesure, il y a certains éléments de l'aide qui rentrent au Rwanda. Ces éléments, on les sélectionne. Ceux qui ont cherché par la justice, ils sont traduits dans la justice, et les autres, on les intègre à la vie normale de la société rwandaise. Je ne vous comprends pas pourquoi le régime dit on ne veut pas discuter avec les gens du FDRL, alors qu'ils discutent avec eux chaque jour. Il faut que ces gens, on trouve parmi eux, est-ce qu'il y a vraiment ceux qui ont commis le génocide? C'est eux qui doivent être traduits en justice. Et il y a ceux qui n'ont rien à se reprocher, ceux qui n'ont rien fait, parce qu'il faut se rappeler que les FDRL ont été créés dans les années 2000. Je pense qu'il y a des jeunes qui n'osent pas rentrer au Rwanda parce que dans leur tête, il y a toujours ce qu'ils ont vécu dans les forêts de Congo quand ils ont été massacrés. Ils ont peur de rentrer. Peut-être qu'ils ont choisi de prendre les armes parce qu'ils pensent que c'est la solution pour eux de se protéger. Alors le gouvernement rwandais devrait plutôt les accepter et les tendre plutôt les bras et les rassurer et les faire rentrer dans le pays. Et puis, je rappelle que le dialogue, c'est une des solutions qui est dans la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la résolution et la prévention des conflits de la région de Glalac. Alors, je ne vois pas, cette stratégie a été adoptée, je crois, en décembre 2020. Je ne vois pas comment, justement, l'ONU va réaliser cette stratégie si le problème interne politique du Rwanda n'est pas résolu.
Et est-ce que la visite récente du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Kagame, durant laquelle il a fait part de ses inquiétudes ouvertement quant aux violations des droits de l'homme au Rwanda, ça vous a redonné un peu d'espoir? Parce que jusqu'à présent, les critiques internationales vis-à-vis des gouvernements internationaux, et notamment américains, vis-à-vis du Rwanda, étaient assez faibles, puisqu'on voyait surtout le progrès économique.
Oui, c'est vrai. On parle souvent du progrès économique du Rwanda et puis on ferme les yeux sur les autres problèmes. Moi, je reste convaincue qu'on ne peut pas avoir le développement de l'arbre s'il n'y a pas la démocratie. Comme on ne peut pas avoir la démocratie de l'arbre s'il n'y a pas le développement. Il faut voir les rapports de la Banque mondiale des années 1980. Le régime de Habyarimana aussi était... On parlait de l'économie au Rwanda. Comment on le fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand l'UFPR est attaqué? Pourquoi l'UFPR est attaqué? C'est parce que justement, ses droits, comme réfugiés rwandais, les régimes précédents n'ont jamais voulu prêter oreille à leurs problèmes. Alors aujourd'hui, l'UFPR est en train de faire la même erreur. Donc, il refuse d'écouter les cris du peuple rwandais qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui ont décidé de prendre les armes. Parce qu'ici, on parle seulement des FDLR, mais aussi dans le sud, il y a le FNL. Mais il n'y a pas seulement ceux qui ont pris des armes, il y a des différentes organisations politiques aussi qui font leurs activités politiques à l'extérieur du pays. Toutes ces gens, quand on analyse en moyen terme et à long terme, toutes ces activités politiques des Rwandais à l'extérieur du pays ne présagent pas une sécurité durable au Rwanda. C'est pourquoi moi je dis il faut sécuriser le développement qu'on a déjà atteint aujourd'hui au Rwanda, qu'on ouvre l'espace politique à l'intérieur du pays, qu'on dialogue et qu'on voit comment résoudre nos problèmes.
Et selon vous, c'est par la voie pacifique qu'on peut changer les choses au Rwanda?
Oui, moi je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de la guerre pour démocratiser le Rwanda. On n'a pas besoin de la guerre pour réconcilier le peuple rwandais. On a besoin de s'asseoir ensemble et discuter et trouver ensemble une solution aux problèmes qui nous préoccupent, nous tous, en tant que Rwandais.
Vous avez posté sur votre page Twitter un petit mot à l'occasion de la Journée internationale pour les personnes victimes de disparitions forcées pour rappeler que certains de vos camarades ont été eux-mêmes contraints de disparaître. Expliquez-nous un petit peu qui sont ces quatre personnes dont vous avez posté la photo.
Je commence par Iraguena éliminé. J'étais en prison quand il a été disparu, c'était en 2016. Quand il m'avait envoyé un livre où il avait écrit une phrase, la lutte pour la démocratie continue dans notre pays. Donc, il a été sérieusement enlevé pour cela. Et depuis lors, personne ne l'a vu. Et trois, Dilmana Boniface, il était le vice-président du parti que je présidais à l'époque. Et puis, il a été disparu, enlevé en prison. En fait, il a été enlevé parce que les témoins qui ont assisté à son enlèvement dans la nuit du 7 au 8 octobre 2018, nous ont parlé d'une voiture qui est venue, qui est entrée dans la prison devant sa serrure. On l'a enlevée dans sa serrure, on l'a forcée d'entrer dans la voiture et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pris revue. Et puis l'autre, c'est Eugène Dreyman, qui était le représentant de notre parti à l'est du pays. Lui aussi, il est Il a disparu quand il venait de quitter chez lui pour rencontrer les membres de son parti, juste à 20 kilomètres de chez lui. Et puis Vena Abaifenga, il a disparu au mois de juin 2020. Lui, il vivait ici chez moi. Il est sorti juste pour acheter des unités pour son téléphone. Et puis, il n'est plus revenu. Donc, depuis lors, quand nous avons demandé le Rwanda Investigation Bureau, donc le bureau d'investigation au Rwanda, on a porté plainte, mais jusqu'à aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus.
Donc, pendant des années, vous n'avez aucune nouvelle, aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, et leurs proches non plus?
Non, non, personne ne sait où ils se trouvent, non.
Et vous ne savez pas donc s'il y a vraiment des enquêtes qui sont en cours?
Non, chaque fois qu'on demande, ils nous disent qu'il faut attendre. Nous faisons des enquêtes, même aux États-Unis, même en Europe, on fait des enquêtes qui n'aboutissent pas. Donc voilà la réponse que je reçois régulièrement.
Victoire Ingabire Mourosa, merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Victoire Ingabire Mourosa. Pour retrouver Droits et Libertés, vous pouvez aller sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.